Il est 8h. Ce soir, à Jérusalem, des organisations terroristes de Gaza ont franchi la ligne rouge. Israël répondra avec force.
Benjamin Netanyahou assume déjà un conflit qui pourrait durer avec le Hamas. Et celui-ci prévient sur le même ton. Si vous répondez, nous répondrons. Si vous escaladez, nous escaladerons. Europe 1 en direct de Jérusalem, dès le début du journal. La ville sainte visée par des roquettes, une première depuis 7 ans. Il était monsieur des confinements il y a un an. Le gestionnaire se transforme en homme politique. Jean Castex parle des régionales, du climat, de la sécurité et assume quelques tacles vis-à-vis de ses anciens camarades des Républicains. Et puis, une arnaque aux faux commentaires. Sur internet, des clients achetaient sur Amazon et se faisaient rembourser par les marques en échange d'un avis dithyrambique sur leurs produits. 8h, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, émotion des forces de l'ordre, tribune des militaires, et puis l'état réel et non fantasmé, l'état réel des menaces en notre pays, rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est presque 8h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il n'y a pas lieu plus sensible au monde. Un espace minuscule à l'échelle de la planète et qui concentre les tensions depuis des décennies. Nous sommes à Jérusalem-Est, dans les remparts de la vieille ville. Voici le Mont du Temple, au bord duquel se trouve le mur des Lamentations. Mont du Temple pour les Juifs, qui n'est autre que l'esplanade des mosquées pour les musulmans. Depuis quelques jours, la tension montait entre communautés, mais hier, c'est une escalade qu'on a observée. Tir de roquettes palestiniennes, représailles de l'armée israélienne.
Bonjour Gwendoline de Bonneau.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem pour Europe 1. La France craint une escalade de grande ampleur. Il faut dire qu'on compte déjà une vingtaine de morts à Gaza, dont 9 enfants.
Oui, cette opération militaire, elle a désormais un nom, gardien des murs. Cette nuit, l'armée israélienne a frappé plus de 150 cibles. Plusieurs commandants du Hamas et du djihad islamique ont été tués. Des sources palestiniennes rapportent, vous l'avez dit, des victimes civiles, dont des enfants. Alors toute la nuit, il y a eu des alertes sur les téléphones indiquant l'arrivée de roquettes dans le sud d'Israël, où les écoles sont fermées aujourd'hui. Le sud d'Israël est considéré en état d'urgence. Alors cette opération militaire israélienne, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. L'état-major dit que ce n'est que début. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est sur la même ligne. Dès hier soir, il a prévenu les Israéliens, ce conflit va durer.
Alors Gwendoline, pour comprendre cette montée de tension assez soudaine, il y a le contexte qui nous ramène donc à Jérusalem ces derniers jours.
Oui, même ce dernier mois, puisque ces tensions, elles durent depuis le début du Ramadan. Il y a une colère palestinienne qui s'exprime pour plusieurs raisons, des raisons profondes et puis des événements qu'ils ont vécu comme une série d'humiliations. D'abord, il y a eu une marche des suprémacistes juifs ouvertement racistes aux portes de la vieille ville. Ensuite, il y a eu la police israélienne qui a installé des barrières à la porte de Damas, qui est un point d'accès à la vieille ville où les fidèles aiment se rassembler pendant le Ramadan. Ils ne pouvaient plus le faire, ils l'ont vécu comme une humiliation. Et puis récemment, il y a eu ces familles palestiniennes menacée d'expulsion au profit de colons juifs dans un quartier de Jérusalem-Est. C'est ce dossier qui a été le catalyseur de ce mois de colère et c'est également à partir de là que le groupe islamiste Hamas s'est mêlé de la situation à Jérusalem.
Gwendoline de Bonneau en direct de Jérusalem pour Europe 1. Pas de réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est bloqué par les États-Unis qui estiment qu'un message public n'est pas opportun à ce stade. 8h04 sur Europe 1. Retour en France. Opération fermeté de l'exécutif après le meurtre du policier à Avignon.
Hommage national pour Éric Masson à 15h cet après-midi que présidera Jean Castex, le Premier ministre qui recevait hier soir les syndicats de policiers pour leur promettre des peines durcies pour les agresseurs de policiers ou de gendarmes. Une peine de sûreté portée à 30 ans pour les condamnés à perpétuité pour meurtre d'agents des forces de l'ordre. Réaction prudente à la sortie de Matignon de Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police FO.
C'est positif parce qu'on n'est pas habitué à avoir une prise en compte comme ça. C'est quand même aussi une marque de respect et d'écoute envers nos collègues. Alors évidemment que ça ne sera jamais suffisant. Mais je pense qu'il y a des pistes, il faut les explorer. Il y a aussi, elles sont techniques, nous on n'est pas des juristes, on n'est pas des professionnels. On est juste humblement des flics qui essayons de défendre les nôtres. On pense avoir un petit peu été écoutés. J'espère entendu.
Grégory Joron au micro Europe 1 de Pierre Herbulot, Jean Castex qui se démultiplie, accordant une interview ce matin au journal Le Parisien avant un 20h. Ce soir, ce sera France 2. Lui qui a parfois été décrit comme un Premier ministre 100% haut fonctionnaire est clairement en train de s'assumer comme un politique. Hélène Terzian.
Jean Castex ne veut pas être seulement monsieur déconfinement. Dans les colonnes du Parisien, le Premier ministre s'empare des questions de sécurité. Après le meurtre d'un brigadier à Avignon, d'une fonctionnaire de police à Rambouillet, deux drames qu'il juge inacceptables, il rappelle les effectifs supplémentaires de forces de l'ordre, la hausse des budgets du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Avant de lâcher, nous mettons le paquet sur les moyens en rattrapant beaucoup de temps perdu. La sécurité, l'armée, le chef du gouvernement riposte fermement à la nouvelle tribune de Militaires anonymes. Il dénonce une tribune politique d'extrême droite dont il interroge la crédibilité. Qu'est-ce qui prouve que ce sont vraiment des militaires, lui, qui dit avoir confiance dans l'armée du pays. Jean Castex à l'aise aussi dans son rôle de chef de la majorité. Après l'accord avorté avec les Républicains en région PACA, il remet une pièce dans la machine et n'écarte pas un nouveau rapprochement avec LR, parti au sein duquel les masques sont tombés, allant jusqu'à dire que s'allier avec le RN ou avec la majorité présidentielle, ce serait la même chose, enfonce Jean Castex, parti que je connais d'autant mieux, dit-il, que je l'ai quitté pour ces mêmes raisons.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1, la principale annonce du Premier ministre dans cet entretien concerne les terrasses de restaurants et de bars, limitation à 50% de leur capacité au 19 mai et pour deux semaines.
Et justement, cette réouverture des terrasses approche et les producteurs de bière se préparent. On sait que les ventes en bouteille en supermarché ont progressé pendant les périodes de confinement, mais sans compenser évidemment la vente en fût pour les bars et restaurants.
Effervescence du côté de la brasserie Heineken de Schiltegem, d'un côté de Strasbourg, Arthur Mbaché.
Rien que dans ce camion en cours de chargement, 800 fûts de bière, de quoi remplir à partir de mercredi prochain 100 000 demi à la pression.
Vous voyez, on charge 24 palettes complètes chez un grossiste qui va le distribuer auprès des bars, des terrasses, des hôtels, etc.
Stéphane Crépel est le directeur de la brasserie de l'Espérance à Schiltegem où attendent 15 millions de litres de Fischer, Heineken et autres Desperados. 500 fûts sont remplis ici toutes les heures.
Ce que l'on a anticipé, c'est le fait d'avoir la bière qui soit à disposition. Donc on a brassé depuis un mois. Et là, l'activité, ça va être essentiellement sur la partie logistique, enfûtage avec le redémarrage d'une ligne complète. L'activité pour le café, hôtel, restaurant, c'est une activité qui représente près de 40% de nos volumes sur le site. Et donc c'est éminemment important pour nous.
Important pour le leader Heineken, important aussi pour ses principaux concurrents, eux aussi implantés en Alsace. La brasserie Carlsberg qui fabrique la Kronenbourg et la 1664. Et la brasserie indépendante Météor, très dépendante des cafés et des restaurants. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe.
Et l'économie qui redémarre prudemment ou avec dynamisme. Il en sera question dans La France Bouge, émission spéciale aujourd'hui en direct de l'usine Renault de Cléon avec un invité exceptionnel, Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault. La France Bouge de 13h à 14h sur Europe 1. Il avait été condamné deux fois à la perpétuité pour 8 meurtres au total et il a été mis en examen dans 4 autres affaires. Des dossiers qui resteront sans procès pour Michel Fourniret, mort hier à 79 ans. Et il n'y a pas que la vérité judiciaire qui reste en suspens. On ne sait toujours pas, par exemple, où le tueur en série a enterré le corps d'Estelle Mouzin, enlevée en 2003 quand elle avait 9 ans.
Et ce matin, sur Europe 1, vous l'avez peut-être entendu, c'est le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui est venu en direct confier son amertume vis-à-vis du temps perdu par la justice française.
Sa mort, elle est anecdotique. Je veux dire, il avait 79 ans, il était malade, c'était normal qu'il meure. Bon, le problème, c'est que elle est la manifestation de toutes les erreurs qui ont été commises dans ce dossier. Et c'est la manifestation également du défaut de la justice française d'instruire ce genre d'affaires et d'une espèce de légèreté qui a été la règle vis-à-vis de ce couple. Parce que à partir du moment où ils sont arrêtés en 2003 et que les enquêteurs belges les livrent entre guillemets à la police française, on s'étonne et on s'interroge. Et vraiment, c'est quelque chose d'incompréhensible que il n'y ait pas eu une tentative de suivi du parcours de ce couple. C'était pas possible. Après qu'ils aient avoué une série de meurtres en 87, 88, 89, 90, 2000 et 2001, qu'on puisse penser qu'il n'y en avait pas d'autres.
Vous avez encore espoir, Éric Mouzin, ce matin, que le corps de votre fille soit un jour retrouvé?
Il ne faut pas se placer dans ce registre-là. Il faut mettre en œuvre tous les moyens pour la retrouver, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et ensuite, on verra. Je ne peux pas faire une construction mentale dans laquelle je vais m'enfermer.
Le témoignage sur Europe 1 d'Éric Mouzin, qui était l'invité du 5-7 de Sébastien Krebs ce matin. Voici une information qui va intéresser les près de 9 Français sur 10 qui regardent les avis des clients sur les sites internet avant d'acheter. Cela vous concerne. Et vous vous demandez s'ils sont fiables.
Clément Le Saffre est avec nous, spécialiste tech d'Europe 1. Des chercheurs en cybersécurité viennent de découvrir un réseau d'internautes payés par des marques pour donner des avis positifs sur leurs produits.
Oui, et vous allez voir, le procédé est d'une simplicité enfantine. Des marques qui vendent leurs produits sur Amazon contactent des groupes d'internautes via des forums en ligne. En échange d'un commentaire positif et d'une note de 5 étoiles, elles leur promettent des produits gratuits. Alors pour ne pas être détectés par Amazon, les internautes achètent bien les produits en question sur le site. Après livraison, ils laissent leurs commentaires dithyrambiques, évidemment. À ce moment-là, la marque les rembourse par PayPal et l'internaute garde le produit en cadeau. Tout le monde y gagne, sauf bien sûr les vrais consommateurs qui se fient, eux, sans le savoir, à de faux avis. Au total, plus de 200 000 comptes suspectés d'avis frauduleux ont été identifiés dans cette fuite. Un réseau d'une ampleur inédite, mais très difficile à détecter pour Amazon. Le géant du e-commerce emploie certes 8 000 personnes et dépense des centaines de millions de dollars en algorithmes, rien que pour analyser les commentaires des internautes. Mais à raison de 10 millions par semaine, la tâche est titanesque.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Il n'a vécu que 36 ans, mais ce jour marque déjà les 40 ans de sa mort. Bob Marley, figure absolue du reggae dont l'héritage musical est toujours fructueux aujourd'hui. Mais ce que l'on apprend avec Angèle Châtelier ce matin, c'est que les groupes de reggae de 2021 n'ont pas les mêmes intentions que le grand maître Bob Marley.
Il y a eu un énorme retour du reggae dans les années 90 avec Cissé Emilia, avec Trio, avec Pierre-Paul Jacques, tous ces groupes qui se servent de l'empreinte qu'a laissé Bob Marley.
Pour Gizmo, le chanteur du groupe Trio, il y a toujours une scène reggae en France, mais elle est moins engagée.
Le reggae de Bob Marley, c'était un reggae très sociétal, politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une musique populaire.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main.
Une musique festive, dansante, idéale pour le live. Aucun artiste de reggae n'est en tête des ventes de disques, mais ils sont en tête d'affiche des festivals, comme Trio au Printemps de Bourges ou à Garo Rock, ou en concert dans des salles prestigieuses. Danakil, par exemple, sera à l'Olympia en septembre. Et ça, pour Olivier Cachin, auteur de plusieurs ouvrages sur le reggae, c'est parce que leur musique est plus accessible que celle de Bob Marley.
Quand on voit un groupe comme Trio, c'est du reggae, mais c'est aussi de la chanson française. Il y a toujours du reggae français. Ça n'est pas une musique unique, mais une musique pluriel.
Et de nouvelles têtes arrivent sur le devant de la scène, comme le chanteur Naman, presque 10 millions d'écoutes sur son tube Karma, ou encore le groupe Rayon qui existe depuis 5 ans et qui prévoit une quarantaine de dates en France et en Europe ces prochains mois.
Quand tu me prends dans tes bras, je n'ai plus peur, je me sens si bien près de toi. Pourquoi tes enfants ne voient-ils pas
Gaïa du groupe Rayon, voilà un peu de reggae dans vos oreilles ce matin sur Europe 1.
Il n'a vécu que 36 ans, Bob Marley. Étonnant. Oui. Incroyable. 40 ans après sa mort. Non, merci là, François Giffrier, c'était le journal de 8h. Et c'est un journal qui termine en musique. Beaucoup de musique ce matin de Francis Cabrel à Bob Marley en passant par le reggae français. Merci François Giffrier. 8h13 sur Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. A tout de suite.